Chapitre 101. La fille au pissenlit. Yona traverse à toute vitesse le hall d'arrivée de l'aéroport de Vanda près de Helsinki lorsque son téléphone sonne.
Saga, qu'est-ce qui se passe ?
Pontus Salman est mort. Il est dans sa voiture devant sa maison. On dirait qu'il s'est mis une balle dans la tête.
Yona sort, rejoint le premier taxi de la file, explique au chauffeur qu'il va au port et s'installe sur la banquette arrière.
Qu'est-ce que tu as dit ?
Rien.
Nous n'avons plus de témoins,
dit Saga d'une voix inquiète.
Qu'est-ce qu'on va faire, bordel ?
Je ne sais pas,
dit Yona en fermant un moment les yeux. Il perçoit les mouvements de la voiture, une ondulation souple et docile. Le taxi quitte la zone de l'aéroport, accélère et rejoint l'autoroute.
Tu ne peux aller sur le bateau de Raphaël sans renfort.
La fille, dit soudain Yona.
Quoi ?
Axel Rissen jouait au violon avec une fille,
dit Yona qui ouvre grand ses yeux gris.
Elle a pu voir quelque chose.
Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
Il y avait un pissenlit. Un pissenlit dans un verre de whisky.
De quoi tu parles ?
Essaie de la retrouver, c'est tout.
Yona s'adosse contre la banquette et se souvient d'Axel, le violon dans la main, lorsque la fille était arrivée avec un bouquet d'aigrettes de pissenlit à la main. Il revoit le pissenlit dont la tige était pliée sur le rebord du verre de whisky dans la chambre d'Axel.
Elle était là, et il est possible qu'elle ait vu quelque chose.
Yona embarque sur le Kirkou, un bateau que la marine finlandaise a réquisitionné pour la surveillance côtière 6 ans plus tôt. Lorsqu'il serre la main du commandant de bord Pasi Ranikko, il pense immédiatement à Lennart Johansson, l'agent de la police maritime de Dalarö, qui adorait surfer et se faisait appeler Lens. Pasi Ranikko est lui aussi un jeune homme bronzé aux yeux bleu clair. Mais, à la différence de Lens, il prend son poste très au sérieux, et il est évident qu'improviser une mission au-delà du territoire de la Finlande ne l'enchante guère.
« Cette sortie ne me dit rien du tout, »
dit sèchement Pasi Ranikko.
« Mais mon supérieur est pote avec le vôtre. » Et visiblement, ça a suffi.
Je m'attends à recevoir une autorisation du procureur d'ici peu,
dit Yona qui sent les vibrations du navire lorsqu'il quitte la jetée et manœuvre doucement sur l'eau.
Dès que vous avez votre autorisation, je contacterai le FNS Anko. C'est un bateau lance-missile comptant 20 officiers et 7 appelés.
Il désigne le bateau lance-missile sur le radar.
Il peut monter à 35 nœuds et il ne lui faudra pas plus de 20 minutes pour nous rattraper.
Bien.
Le yacht de Raphaël Guidi a passé l'île d'Ageu et navigue désormais au large de l'Estonie. J'espère que vous êtes conscient que nous ne pouvons pas embarquer sur un bateau situé dans les eaux territoriales estoniennes, sauf en situation d'urgence ou en cas d'activité criminelle avérée.
Oui.
Le bateau quitte le port sous le grondement des machines.
Voilà l'équipage au complet, dit Pasi Ranikko d'un air ironique.
Un homme imposant à la barbe blonde monte sur la passerelle. Il est le premier et unique timonier et se présente.
Niko Kapanen, comme le hockeyeur.
Il lorgne curieusement Yona, se gratte la barbe, puis demande avec précaution.
Il est soupçonné de quoi en réalité ce Guidi ? Kidnapping, meurtre, meurtre de policier, trafic d'armes,
dit Yona.
Et la Suède envoie un seul policier ?
Oui.
Sourit Yona.
Et nous, on vous aide avec une vieille péniche non armée.
Dès qu'on aura l'autorisation du procureur, on sera quasiment un peloton,
dit Pasi Ranikko d'une voix monotone.
Je préviendrai Urho Saarinen sur le Anko et il nous rejoindra en 20 minutes.
Mais les inspections,
dit Nico.
On peut quand même inspecter, hein.
Pas dans les eaux territoriales estoniennes,
l'interrompt Ranikko.
Quelle connerie. Grommelle Nico.
Ça s'arrangera,
dit Yona d'un ton bref.